Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Dès le début du confinement, les conseils, les trucs, les astuces, les jeux, les recettes, les tutos, les collages, les pliages pour occuper, divertir et éduquer les enfants à la maison se sont multipliés, on s'en souvient, sur les réseaux, dans les journaux, sur les radios. Et avec eux, les injonctions à réussir son confinement, à trouver des règles, des horaires, à suivre les devoirs, à faire de l'exercice, à limiter les écrans, à avoir un cadre. Parmi les conseils les plus intéressants que j'ai lus, dès le 19 mars dans Le Monde, la pédopsychiatre Nathalie Franck appelait au contraire les parents à faire preuve de souplesse, à s'adapter aux horaires des enfants, à les laisser dormir, à ne pas placer la barre trop haut, à être cool, à lâcher un peu. Et surtout, à ne pas culpabiliser si les enfants avaient un peu plus recours aux écrans, traînaient davantage, se levaient tard, ne faisaient pas tous leurs devoirs. À essayer d'aller bien, ne pas trop se disputer, à faire au mieux. Enfin, c'est du moins ce que j'ai voulu en retenir personnellement. Quelque temps plus tard, début mai, à la veille du déconfinement, dans le même journal, 11 pédiatres et spécialistes de santé publique se sont néanmoins alarmés des conséquences funestes de la pandémie sur les enfants, sans préciser bien sûr quels conseils ils avaient suivis. Ils évoquent tout de même le stress et la peur de l'infection, l'ennui, l'absence de lien avec des amis, le manque d'espace et d'exercice, et demandent à ce qu'une attention toute particulière soit consacrée aux petits. Ils se disent également que si les violences conjugales ont augmenté de manière dramatique pendant cette période, les enfants en sont les premières victimes collatérales. Rappelant enfin que 20% des enfants vivent déjà sous le seuil de pauvreté, ils s'inquiètent particulièrement de l'impact économique sur les enfants. N'oublions pas les enfants, occupons-nous d'eux, mettons-y les moyens qu'il faut, c'est le message en substance auquel il est difficile de ne pas adhérer. Au pied sur terre, nous avons commencé par les écouter, par chercher à entendre comment ils avaient vécu ce confinement, quel imaginaire ils avaient développé, convoqué, à quoi ils ont rêvé, ce qui les a inquiétés, les solutions qu'ils ont trouvées pour faire face. Vous verrez, ils ont entre 7 et 11 ans et ils n'y vont pas par quatre chemins. Ils abordent directement des thèmes comme la vie et la mort et ce qui se passe après. Sans détour, c'est au micro, passion, évidemment, d'Élise Andrieux.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent.
Alors, je m'appelle Joséphine, j'ai 10 ans. Je vis à la campagne dans une maison avec ma sœur et mes parents. J'ai un grand jardin en Bretagne, en Ille-et-Vilaine.
Bon bah, je m'appelle Ousmane, j'ai 10 ans, je suis dans une maison à Courbevoie.
Je m'appelle Tracy.
Et c'est tout.
J'ai 11 ans, j'habite à Montagny.
Je m'appelle Sofiane, j'habite à Mulhouse, j'ai une mère et un père.
Je m'appelle Ondine, j'ai 8 ans.
Deux sœurs et un frère.
Je vis dans une maison avec deux très grands jardins avec mon papa, ma maman et ma petite sœur Eva.
Je m'appelle Marceau, je vis à côté de Rennes et mes parents sont séparés donc j'ai deux maisons.
Je m'appelle Léo, j'ai 10 ans et j'habite à Paris dans le 5e arrondissement. Donc j'ai pas de jardin mais j'ai un espace suffisant pour le confinement quoi, j'arrive à bouger. C'est incroyable quand même qu'on soit arrivé là. Être en confinement, qu'il y ait eu un virus quand même, une épidémie qui touche toute la Terre, je me dis c'est incroyable quand même. Ne voir personne dehors, c'est particulier. Des fois je me demande si c'est un rêve, je me dis mais est-ce que c'est vraiment, c'est vrai ce qu'on est en train de vivre. Et donc après je vois dehors, je vois toutes les personnes avec les masques et je me dis bah oui c'est vrai.
Tu te rappelles le premier jour où ça a commencé ?
Oui. Je me suis dit que ça va être trop. Qu'on est toujours dans la maison et on peut pas sentir l'air. J'habite à Mulhouse. Mon immeuble, c'est un grand immeuble. L'étage 11-12. J'ai 8 pièces dans mon appartement. Mulhouse ressemble à une usine. Parce que c'est une ville industrielle et il y a beaucoup de cheminées. Oui, et il y a beaucoup de gens à Mulhouse qui ont été malades parce qu'ils sortent dehors.
Tu connais des gens qui ont été malades, toi ?
Au début, ma maman, elle était malade. Je savais pas, j'ai cru que c'était pas grave. Le deuxième jour, elle n'en pouvait plus. Je commençais à m'inquiéter. Troisième jour, je m'inquiétais encore plus. Je commençais à lui donner des médicaments. Le quatrième jour, je commençais à stresser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et elle a appelé le 15 et la médecine, elle a dit c'est de l'angoisse.
Toi, tu croyais qu'elle avait le coronavirus ?
C'était pas ça. C'était l'angoisse.
C'est quoi l'angoisse ?
C'est quand t'as peur de quelque chose ou t'as peur de l'avoir, peut-être. Ça peut emmener en crise d'angoisse. Maman, je l'aime beaucoup, beaucoup, même beaucoup trop. Et depuis que j'ai entendu ça, ben j'étais très inquiet. Parce qu'il y aura plus en plus de malades et ça va tomber sur nous après, ça va tomber sur le monde entier. Les médecins, on sait pas, peut-être ils vont l'attraper et ils pourront plus rien faire. Pour moi, la mort, c'est pas simple. C'est dur de mourir. Parce qu'on peut pas mourir en clignant des yeux pour mourir.
Alors, Eva, je vais faire un petit peu de piano. Ah, un petit peu de piano, tu viens? Ah. Par contre, les deux chevaux en piano, c'est pour moi. Après, toi, tu pourras en faire un peu.
Coronavirus, ça me fait un petit peu penser à la bière, mais je sais que c'est pas ça et je sais que c'est Corona, c'est plutôt le nom du virus et bah après virus, c'est un virus, une maladie. J'ai pas du tout envie de l'attraper, c'est très dangereux, c'est pas très, ça a pas de forme, on peut pas le voir, il est invisible, il est partout. Beaucoup sur les gens, sur beaucoup d'objets, beaucoup de matières, plastique, carton, fer, il est un peu partout dans le monde, dans tous les pays. Je l'imagine comme un petit microbe méchant, comme il fait tuer les gens. Ouais, voilà, méchant, terrible, pas gentil, qui va partout, qui ricane, comme des sorcières, il est méchant, quoi. Son corps est bleu et ses bras sont jaunes et ses jambes sont jaunes et sinon il a un nez jaune et sinon c'est tout bleu. Son corps, ouais. Je l'imagine un peu comme ça.
C'est un protoguine.
Nous, avec notre famille, on l'appelle le coucou virus. C'est plus rigolo en fait.
J'imagine un peu une chose de molécules de gouttes d'eau à moitié rouge, blanche, un peu bizarre. Et il est un petit peu inquiétant quand même.
Au niveau de l'apparence, c'est pas très très beau à voir. Il a des sortes de couronnes sur lui. Niveau style, on peut faire mieux. Sur 10, je mettrai un 4 parce que c'est pas la plus belle chose à voir.
Bah depuis le début du confinement, je suis pas sortie. Mais non, je suis sortie le premier jour pour aller courir parce que je savais qu'à un moment, on serait obligé de rester chez nous. Moi, ne pas aller dehors, ça manque beaucoup. Parce que déjà, avoir toute la rue devant soi, tout l'espace, l'air frais de quand on marche dans la rue, de voir vraiment des gens, ça me manque beaucoup. À part quand je vais sur le balcon, mais c'est pas... Enfin, ça ressemble, c'est pas exactement la même chose. Des fois, je fais du yoga. Ça me détend, j'essaie d'en faire avant de dormir, pour plus trop penser. Déjà, je me concentre sur ma respiration. Et après, je pense plus qu'à ça. Je pense plus qu'à la respiration. Et du coup, il y a toutes les autres pensées, toutes les autres émotions, tout s'en va. Il y a juste la respiration qui compte. Après, quand j'ai terminé de faire ça, je suis beaucoup plus gentille, moins stressée. Je pense plus aux choses qui m'embêtent. Et vraiment, ça fait du bien de se sentir comme ça. Surtout en ce moment, ça fait vraiment du bien. Et à mon avis, pour les autres aussi, quand ils voient qu'on est doux, qu'on est tendre, qu'on est relaxé, ils peuvent essayer de faire pareil et on pourrait vivre beaucoup plus calmement en fait.
Comment t'as appris à faire du yoga ?
J'ai lu des livres et ça donnait des petites méthodes et tout ça. Et ensuite j'ai regardé des vidéos sur des personnes qui le faisaient et j'ai trouvé qu'elles étaient calmes, donc je me suis dit c'est un bon moment pour le faire. Et en fait, ce qui serait bien, c'est que tout le monde arrive à vraiment se trouver un temps comme ça. Un temps à lui, pour se détendre, se relaxer. Le soir, je pense, ça fait du bien peut-être de se remémorer les choses de la journée, mais il faut pas trop penser, parce qu'après, on met vraiment du mal à s'endormir, comme moi. Je me dis, il faut que j'arrête de penser. Et alors j'essaie de trouver une position confortable, ce qui est assez dur parce que j'arrive pas à la trouver. Et j'essaie de dormir, de ne plus penser à rien et de dormir. À la fin de ma vie, je pense que j'aimerais être quelqu'un de calme, de gentil, de doux. En fait, j'aimerais bien être tout ce qu'il y a de plutôt positif.
J'arrive, Odile. J'arrive.
Eva, regarde, là. Regarde. Il y a une toile d'araignée, touche pas. Elle est trop belle. Oh là là, il y a plein de mouches qui sont dedans. Mais t'as cassé sa toile. Ça met des années à faire une toile.
Je regarde à la fenêtre de ma chambre. Je vois mon herbe et les toits des maisons, les autos, les... je regarde par exemple les oiseaux qui volent et tout. Je m'imagine qu'il a un cheval qui vole, qui vient dans ma maison et dans ma chambre. Il y en a toujours, tous les jours, il y en a un qui se rajoute. Au moins 10, 100, ou voilà. Avec leurs cornes, ils volent. Et après, ils cassent la vitre avec leurs cornes.
Les petits poissons dans l'eau. Nage. Les petits poissons.
Si on serait dans un parc, je courrais, je regarderais les arbres, les feuilles. Je crois que ça fait 4 semaines maintenant. Ou plus, que je suis confinée. C'est très très long et j'ai l'impression de plus être connectée au monde extérieur. Comme un oiseau dans une cage. Parce que un oiseau, si c'est en cage, ça peut pas voler. En fait, pour moi, voler, c'est comme marcher, se promener ou faire du vélo. Et c'est un petit peu la même chose. Ce serait une cage avec des murs, mais avec des fenêtres. Et à l'intérieur, il y a des choses pour s'amuser, c'est-à-dire peut-être un ordinateur, des livres, une télé, une console de jeu, des crayons de couleur, des feuilles. Des choses comme ça pour s'amuser, mais on peut pas sortir, donc c'est une sorte de prison. Mais j'ai pas fait de crime, donc... Mon grand-père, il a le coronavirus. En ce moment, il est hospitalisé, mais son état est plutôt rassurant. Et les médecins ont dit que si on continue à bien s'occuper de lui, il va bientôt sortir. Enfin, il habitait avec nous il y avait une chambre et on n'avait pas du tout le droit d'entrer dans sa chambre. C'était totalement défendu. On n'avait pas le droit de se rapprocher trop près de lui. Et il toussait beaucoup. C'était triste de plus pouvoir le toucher, parce que c'est horrible de plus pouvoir faire de câlins aux gens, d'aller dans ses bras, qu'il me raconte des histoires, des choses comme ça. Quand il me parlait de quand il était jeune, il me raconte des histoires de Bouki la hyène et Luc le lièvre. C'était un conte au Sénégal, son pays natal. Il parle avec une voix un petit peu cassée, et il parle très doucement, mais au moins il parle pas fort. Et ça fait du bien d'être au calme.
Il faut sauver les vies, parce que sans vous, comment on ferait?
La tranquillité, ça sert à se dire que on n'a pas tout sur nos épaules. On peut respirer, c'est pas la fin du monde.
Je ne comprends pas pourquoi les enfants devraient comprendre et pourquoi les adultes ne devraient pas comprendre.
J'ai réussi à apprivoiser ma solitude. Maintenant, je joue souvent seul et longtemps. Maintenant, je me rends compte, je pense à cause du confinement, je me rends compte de tout ce qui se passe. Par exemple, pourquoi est-ce que le virus a stoppé tout le monde et pas aussi la détruisonisation des forêts. Enfin, c'est le pangolin qui a transmis le virus aux hommes. Donc peut-être que c'est pour que c'est les animaux qui se défendent pour qu'on arrête de détruire les forêts, pour faire pousser du palmier, pour faire du Nutella.
Tu voudrais faire quoi quand tu seras grande pour que les choses aillent bien?
Ce que je ferais comme métier, ce qui me semble le mieux, c'est essayer d'être présidente. Essayer au moins de stopper, par exemple, la France vend des armes pour tuer les hommes. Et moi, je pense qu'il faudrait mieux garder l'argent pour essayer d'arrêter de couper les arbres, d'essayer de réparer les dégâts qu'on a faits. Je pense que je serais capable de supprimer tous les Nutella ou des magasins, en fait. Des fois, je me demande la vie, mais à quoi ça sert, en fait? Pourquoi est-ce qu'il y a la vie? Pourquoi est-ce qu'on doit vivre? Pourquoi, par exemple, on doit se balancer sur une balançoire? Pourquoi est-ce qu'on doit aller à l'école, par exemple? Enfin, pourquoi, par exemple, les animaux, eux, ils ont pas d'école? Enfin, prenons l'exemple des chevaux. Les chevaux, ils vont pas à l'école, ils broutent juste, ils boivent et ils dorment. Nous, on a des mains, on a des pieds, alors que pour les chevaux, ils ont juste des sabots. Par exemple, pour aller à l'école, c'est plus compliqué. C'est ça. Enfin, les chevaux, je ne voirais pas trop comment on pourrait les faire mathématiciens et astrologues. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué, alors qu'un humain, c'est facile. Il fait des études à l'école. Ensuite, et après il est astrologue, donc c'est beaucoup plus facile. Alors qu'un cheval, je crois qu'il n'y a jamais eu de cheval astrologue, . Enfin, je sais pas vraiment quoi est-ce que je vis, en fait. Je sais pas vraiment pourquoi est-ce que je vis.
Parfois, en fait, dans mon lit, quand je m'endors, je pense, j'essaie de prier mon Dieu. Parce que lui, j'ai l'impression qu'il me dit quand le confinement va s'arrêter, quand je vais pouvoir aller à l'école, et pas peut-être les scientifiques ou Emmanuel Macron, par exemple. Moi, je crois que c'est mon Dieu, tout quoi, qui va réussir à dire ça. Parfois, je sais que certains ne vont pas me croire, mais ils me répondent. Par exemple, je lui pose une question et le lendemain, il me répond. C'est trop bien d'avoir un Dieu pour soi qui te répond à tes questions, qui t'aide à parfois te sentir mieux. C'est trop génial. Par exemple, je lui dis quand est-ce que quelqu'un va mourir que je connais, il va me dire quand.
Et qu'est-ce qui se passe quand on meurt, on va où?
Moi, ce que je pense qu'il y a après la mort, il y a une deuxième vie. Et si tu gâches ta deuxième vie, tu vas pas en enfer, mais en dessous l'enfer. Et en dessous l'enfer, c'est le plus que l'enfer, ça s'appelle. Alors, il y aura ceux qui n'ont pas réussi leur vie, qui seront presque l'enfer et qui n'auront pas été gentils et tout ça. En enfer, il y aura ceux qui ont été moyens, gentils et pas très très sympas, un petit peu vilains. En un petit peu vie, il y aura ceux qui ont été un petit peu gentils. En vie, il y aura ceux qui ont été gentils. Et en plus que vie, il y aura les grands champions. Donc il y aura en plus que vie, là, il y a Nelson Mandela, par exemple, en plus que vie, parce que lui, il a été super sympa avec tout le monde. Il voulait pas aller en prison, tout ça. En plus que lui, je sais pas trop qui peut avoir, sinon les grandes personnes qui ont changé Gandhi par exemple, ou Pelé le roi du foot, ou... Je pense que je mériterais la vie. En vie, c'est ceux qui auront bien réussi, très bien réussi leur vie. Donc ceux qui auront fait... Parce que j'espère changer le monde plus tard. J'espère changer le monde, mais si j'arrive à être comme Gandhi, Nelson Mandela, et qu'il y ait une nouvelle guerre, et que j'arrête la guerre, ou que j'arrive à stopper tout ça, là je serai en plus que vie, mais il faut vraiment être très fort.
Je préfère être un enfant qu'un adulte. Parce que les enfants, ça joue plus... Ça fait plus de jeux et moi j'adore jouer. Et c'est plus jeune donc ils ont beaucoup plus de temps encore. Moi j'adore vivre donc ils ont beaucoup plus de temps pour vivre plutôt que les adultes. Ils sont plus près de la mort que les enfants parce qu'ils sont beaucoup plus âgés et ils ont plus de connaissances donc c'est pour ça.
Pourquoi t'adores vivre?
J'adore la vie, c'est bien.
Qu'est-ce qui est bien?
Tout. Tout sauf la mort. Si, il y a forcément des choses que j'aime pas, parce que, par exemple, il y a certains légumes, les choses méchantes. Par exemple, taper, ça j'aime pas. Mais sinon, j'aime bien la vie.
Qu'est-ce qui te fait le plus rigoler, toi, dans la vie?
Dans la vie? Les blagues de mon père.
Et qu'est-ce qui te fait le plus pleurer?
La mort.
Qu'est-ce qui te fait le plus peur?
La mort.
Papa? Papa? Attendez, je reviens. Papa?
Alors, si je devais donner une couleur au confinement... ça serait rouge. Bah parce que, à mon avis, tout le monde est un peu comme ça, à cette couleur à la fin du confinement. Tout le monde a un peu la couleur rouge, la couleur un peu de la rage, quoi.
Orange. Parce que je suis presque dans le rouge, parce que ça commence à devenir énervant, mais je suis plus dans le jaune, c'est-à-dire la détente, me reposer.
Le bleu clair, parce que c'est une bonne chose, c'est pour nos biens. Si ça serait quelque chose de très négatif, ben je le mettrais en noir.
Et s'il devait y avoir une odeur au confinement, ce serait laquelle?
Peut-être du fromage rassis. Parce que, à mon avis, c'est comme si on était des fromages. Et à la fin d'être resté trop longtemps chez nous, on va avoir cette odeur... l'odeur de l'œuf pourri.
Je sais pas. Alors, odeur. Confinement. Un peu une odeur froide, de stress. Un peu froide, glacée.
Ça doit juste être la même odeur. Si c'est la même odeur tous les jours, c'est comme faire tous les jours la même chose.
Une musique. L'hymne à la tristesse. Ça existe pas, mais... C'est l'inverse de l'hymne à la joie.
Une musique, un truc comme ça, qui fait peur, qui est stressante un peu, je sais pas comment dire.
Une musique entre grave et aiguë.
C'était Coucou Virus, l'imaginaire des enfants confinés. Un reportage d'Élise Andrieux réalisé par Cécile Lafont et mixé par Benjamin Vignal. Merci à Joséphine, Ousmane, Tracy, Sofiane, Ondine, Marceau, Léo, Violette et à leurs parents. Merci au professeur Francis Cransac, Christine Durand, Nicolas Monchamp, Chloé Dinard, Nelly Dussos et Véronique Decker. Sarah Algeroui, c'est notre stagiaire. Roxane Poulain, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre avec Camille Richir.
Your wings won't spread.